Alors, bien avant que le mot bien-être ne devienne ce qu'il est aujourd'hui.
Une énorme industrie, oui.
Exactement. Et bien avant les retraites de yoga à Bali, les cures de jus sur Instagram, tout ça. Il y avait une autre manière de se soigner, de revenir aux sources. On imagine la scène, hein. On a quitté sa campagne, on a travaillé comme un fou à la capitale, on a réussi, mais la ville nous a complètement usés.
Et la solution, c'était le retour au pays.
C'est exactement le voyage qu'on va faire aujourd'hui, en se plongeant dans un document vraiment formidable.
Ah oui.
C'est un article du bulletin du Carte Club Aveyronnais. C'est une association, en fait, de collectionneurs de cartes postales.
D'accord.
L'article est signé Pierre Dumont, la mise en page est de Guy Mazard, et le titre, c'est « Sur les traces des curistes aveyronnais ». On va donc explorer ce tourisme de santé en Aveyron, fin 19e, début 20e.
Avec ces fameux Aveyronnais qui avaient fait fortune à Paris.
Voilà, et qui revenait se refaire une santé.
Et là, c'est super important de comprendre qui étaient ces gens. Le mot-clé, en fait, c'est Bougna.
Les Bougnas,
C'est
oui.
ça. Le surnom qu'on donnait à ces émigrés d'Auvergne, et surtout de l'Aveyron, qui montaient à Paris pour des boulots très très durs, hein.
Porteurs d'eau, de charbon, ce genre de choses.
Exactement. Mais grâce à une solidarité très forte et une capacité de travail et d'épargne énorme, beaucoup ont connu une ascension sociale, mais spectaculaire.
En devenant commerçant, propriétaire de café.
Voilà les fameux vins et charbons, puis des brasseries, des hôtels. Du coup, ce retour au pays pour une cure, ben, ce n'était pas juste une question de santé.
C'était une sorte de consécration sociale.
C'est tout à fait ça. C'était un acte à double sens. D'un côté, oui, un besoin vital de fuir la pollution de Paris, le stress, de retrouver l'air pur.
Les racines.
Et de l'autre, c'était une démonstration de réussite. Payer pour une cure, prendre ce temps pour soi, c'était un luxe. Un marqueur social très fort qui disait « J'ai réussi, je peux revenir ici non plus pour travailler la terre, mais pour me soigner avec ses bienfaits. »
D'accord. Alors, mettons-nous dans la peau de notre bougnac qui a réussi. Il rentre au pays, il est fatigué et il a le choix. L'article de Pierre Dumont nous présente un vrai menu de cure. On peut commencer par les plus bucoliques, on va dire. La première, c'est la cure de raisin à Entraigues.
Ah, ça sonne plutôt bien.
Le tableau est idyllique, hein. L'article est illustré par une carte postale « Cure de raisin à Entraigues ». Et c'est la quiétude absolue.
Mais j'imagine que derrière cette image, il y a un rituel très précis.
Tout à fait. L'article explique qu'il fallait se lever tôt, aller dans les vignes et à jeun, attention, manger 1 kg de raisin.
1 kilo.
1 kg. Et de raisin pas trop mûr en plus.
Aïe, ça devait être assez acide. Mais quelle était la logique derrière ça?
Alors, c'est là que ça devient intéressant.
On appelait ça la cure Uval. L'idée, à l'époque, c'était que le raisin, surtout un peu vert, avait des propriétés, je cite, drainantes et revitalisantes.
Une sorte de détox avant l'heure.
C'est un peu ça, oui. On le prescrivait pour les troubles digestifs, la fatigue, le cholestérol. Mais le rituel est fondamental. C'est à jeun, une quantité précise, un fruit spécifique. On est dans un protocole qui se veut médical, quoi.
Et le reste de la journée, c'était la détente.
Voilà. Promenade, canotage, pêche, jeu de quilles. On soignait le corps par le raisin et l'esprit par le calme.
Bon. Alors, si on quitte les lignes, l'article nous emmène dans un décor radicalement différent.
Et une cure beaucoup plus rustique, je suppose.
Ah oui, on monte sur le plateau de l'Aubrac, à 1400 mètres d'altitude, pour la cure de Petit Lait. L'ambiance n'est plus la même.
Non, là on passe de la douceur à la rudesse de la montagne. La cure, c'était pendant l'estive, de juin à septembre, c'est ça?
C'est ça, et les curistes devaient aller tous les jours dans les burons.
Les cabanes de montagne où l'on fabrique le fromage, la fourme, le laguiole.
Exactement. Et la cure, c'était de boire le lactosérum.
Le petit lait, ce liquide un peu aigre qui reste après la fabrication du fromage.
J'imagine que le goût devait être particulier. Fallait être motivé.
Ah, la motivation venait des vertus qu'on lui prêtait, hein. On le disait dépuratif, stimulant, bon pour le système immunitaire, le cœur, et même pour lutter contre la dépression ou pour aider à reprendre du poids.
Mais ce n'était pas que le produit en lui-même.
Non, et la carte postale citée, cure de petit lait et de bon air à Aubrac, le dit très bien. C'était le petit lait et le bon air. L'altitude, l'air pur, l'isolement, tout ça faisait partie du traitement.
Un choc pour notre bougnat parisien, j'imagine.
Un choc total, l'opposé de sa brasserie enfumée du 11e arrondissement.
Aveyron, c'était aussi une grande terre de thermalisme, une approche plus
scientifique, disons.
Absolument. Là, on entre dans un univers beaucoup plus structuré, avec des établissements, des médecins, des protocoles. C'était une autre forme de prestige.
Et on peut commencer par la plus ancienne, la plus prestigieuse des stations de l'Arctique, Sylvanès.
Ah oui, Sylvanès. Une histoire quasi millénaire.
Les sources étaient connues des Romains, et ce sont les moines cisterciens qui ont vraiment développé le lieu à partir du XIe siècle.
C'est ça. Ils ont d'abord utilisé un bâtiment, le Mastéron, pour loger les baigneurs, avant de construire la fameuse abbaye un peu plus loin, face à l'afflux de monde.
Et ça, ce n'est pas un détail, le fait que ce soit géré par des religieux.
Pas du tout. Ça conférait à l'eau une aura, presque sacrée. Et c'est une eau bicarbonatée sodique. Mais pour notre bougnard, choisir Sylvanès, ce n'était pas juste une cure. C'était s'inscrire dans une histoire.
Une tradition.
C'était le choix de la légitimité, du prestige historique. C'est l'équivalent du 19e siècle de choisir une clinique de luxe en Suisse, quoi. Une déclaration de statut.
Et comme sur tout marché, il y a la concurrence. L'article présente Andabray comme le grand rival.
Mais avec un argument de vente très différent.
Plus la tradition religieuse.
Mais la validation royale est scientifique. L'eau d'Andabray, qui est ferrugineuse, a été analysée dès 1640. Et à la demande de Louis XIV.
C'est un argument marketing incroyable pour l'époque.
Extrêmement puissant. Andabray jouait la carte de la modernité, de la science. L'organisation était très carrée, deux sources bien distinctes.
La source de la buvette pour boire et la source du grand bassin pour les bains.
Voilà, et ça marchait.
L'article donne un chiffre qui, qui donne le vertige. 30 000 bouteilles produites en 1871. C'était une véritable industrie.
Et pourtant, la station a périclité dans les années 30.
Oui, et c'est là qu'on trouve une des pépites de l'article. Pour tenter de se relancer, la station a lancé une campagne de pub. Et l'auteur cite un slogan d'une franchise...
Ah, désarmante. Ah oui, celui-là, il est inoubliable. Constipé, ne tournez plus autour du pot, buvez l'eau d'Andabre.
On ne peut plus direct. Pas de promesses vagues, de vitalité retrouvée. Non, non, on identifie un problème très concret, on propose une solution tout aussi concrète.
C'est presque rafraîchissant dans sa brutalité.
Ça n'a pas suffi, malheureusement. Alors, on a vu l'eau de prestige, l'eau scientifique, mais l'article nous garde le cas le plus étrange pour la fin, Cransac. Là, ce n'est même plus une histoire d'eau.
Non, l'eau a disparu. L'article explique que les sources se sont taries à cause de l'exploitation des mines de charbon à Decazeville, juste à côté.
Mais autre chose est apparue.
Des gaz chauds naturels qui s'échappent du sol. Et c'est avec ces gaz qu'on a créé une station thermale absolument unique.
Et les méthodes décrites sont primitives, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est de la médecine à l'état brut. Au début, les malades se mettaient simplement dans des fosses pour s'exposer aux vapeurs.
C'est fou d'imaginer ça.
Puis la technique s'est un peu raffinée. On a construit des cabanes en bois, individuelles. À l'intérieur, le curiste s'asseyait dans une sorte de caisse étuve.
Avec juste la tête qui dépasse.
Exactement. Le corps cuisait littéralement dans les vapeurs.
Attendez, mais on parle de gaz qui sortent d'une ancienne région minière. Ça paraît hyper dangereux, non ? L'article précise de quoi il s'agit ?
Oui, il précise un point très important. Ce n'est pas d'origine volcanique, comme on le croyait. Ça vient de la combustion souterraine, très lente, de schistes pyriteux et charbonneux.
D'accord.
Le traitement était, et il est toujours d'ailleurs, destiné au rhumatisme. Cransac est la seule station thermale en Europe qui utilise cette technique.
Ah oui.
Évidemment, la pratique a été modernisée et sécurisée depuis. Mais imaginez le courage ou le désespoir de notre bougnard pour s'enfermer là-dedans.
Donc on a ces trois grands noms, Sylvanès, Andabre, Cransac. Mais est-ce que le phénomène se limitait à ça ?
Pas du tout. Et c'est un autre point très intéressant de l'article. Il montre que c'était une industrie très diffuse, hyper locale même.
Ah bon ?
Il cite par exemple Camarès, qui n'avait pas un, mais deux établissements thermaux, le Caïla et Prugne.
Avec des sources différentes.
Oui. Et il mentionne aussi Pont-les-Bains, une exploitation plus modeste, plus locale, qui a fermé en 1939. Ça dessine l'image d'un territoire où la moindre source était une opportunité économique potentielle.
C'était un vrai moteur pour l'économie locale ?
Bien au-delà des quelques stations célèbres, oui.
Au fond, ce voyage dans le temps, grâce aux cartes postales de Pierre Dumont et du Cartoclub, nous brosse le portrait d'un monde où la santé était intimement liée à la terre. C'était un mélange de croyances populaires, de sciences nascentes et surtout, pour ces Aveyronnais de Paris, un symbole très fort de retour aux sources et de réussite.
C'est une synthèse parfaite. Et si on connecte ça à notre époque, c'est là que ça devient vertigineux. Ces pratiques nous semblent pittoresques, un peu naïves, non? Manger un kilo de raisin, s'enfermer dans une étuve.
Oui, complètement.
Et pourtant, ça soulève une question essentielle. Est-ce que nos quêtes de bien-être actuelles sont si différentes dans leurs dans leur essence?
C'est une très bonne question. Quand on y pense, le jus détox à base de cale et de gingembre, est-ce que c'est si loin de la cure de raisin drainante?
Précisément. Et les retraites de silence ou les stages de survie en forêt, est-ce que ce ne sont pas des versions modernes de la cure de Bonaire sur le plateau de l'Aubrac?
Vu comme ça...
On cherche des versions 2.0 de ces cures, poussées par le même besoin, au fond, d'échapper à des vies devenues trop complexes, trop rapides, trop virtuelles peut-être.
Pour se reconnecter à quelque chose de plus authentique.
De plus naturel. La forme a changé, le marketing est plus sophistiqué, c'est certain, mais ce besoin viscéral de se refaire une santé en retournant aux sources, lui, reste peut-être exactement le même.